Et tout de suite, rendez-vous avec Pour la Dignité, avec Amnesty International et Régis Coulanges. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Alors c'est un numéro de notre émission là, qui est un peu spécial puisqu'on va rendre hommage à Pierre Souhaité, membre d'Amnesty International du groupe de Digne, qui est décédé lundi dernier suite à une opération, à des complications. Il laisse un grand vide dans le groupe. Nous l'avons beaucoup apprécié. C'était un militant de très longue date, puis ça faisait plus de 45 ans qu'il était à Amnesty International. Et pour lui, les droits humains étaient vraiment très, très importants. Il avait des révoltes. Il était passionné de nature. Il avait d'ailleurs sorti un livre de promenade sur la Savoie. Et il était aussi passionné de justice. Et en ayant vécu en Guadeloupe, il a rencontré des professeurs de faculté qui lui ont dit notamment que en Guadeloupe, on ne trouverait aucune rue du nom de Voltaire ou Bonaparte, parce que Voltaire était un raciste et Bonaparte, c'est lui qui a rétabli l'esclavage dans les colonies. Esclavage, première abolition, 1794, qui faisait suite à la Révolution française et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc logiquement, l'abandon de l'esclavage allait dans ce sens, mais ça n'a pas été facile. Et heureusement qu'il y a eu Condorcet notamment, qui s'est beaucoup battu pour que l'esclavage soit aboli. Donc 1794, première abolition, qui n'est pas tellement enseignée à l'école. On parle beaucoup de la seconde abolition, mais il y en a eu une première. Et pour qu'il y en ait eu une première, il fallait que quelqu'un l'ait supprimée, cette abolition. Et c'est Bonaparte qui a fait ça, sous la pression des riches colons. Voilà, donc il nous a laissé un livre, Le Prix de la Liberté, aux éditions Parole, hein, qui est un éditeur régional, que vous pouvez trouver facilement. C'est un livre, je suis en train de le relire, parce qu'en fait, on retrouve tout Pierre dans ce livre. C'est un livre qui parle justement du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, île où il a vécu longtemps en tant que météorologiste, et aussi membre d'Amnesty du groupe de Guadeloupe. Il s'est passionné pour cette histoire, et aussi par le fait que la France a tendance à glorifier ses actes généreux, etc., mais pas sous silence tout ce qui est négatif. Or, dans l'histoire, il faut tout prendre, hein, il faut faire la vérité, voir les bons côtés d'un pays, mais aussi les mauvais côtés. Et donc, il voulait sans cesse rétablir cette vérité. Aussi parce que connaître vraiment son histoire, c'est éviter que des choses horribles se répètent. Et si on ne sait pas ce qu'a fait la France d'horrible, hein, avec notamment ce rétablissement de l'esclavage, mais il y a eu aussi la torture utilisée dans la guerre d'Algérie, et puis des généraux qui sont allés enseigner ce qu'on appelait la guerre révolutionnaire, où l'ennemi est à l'intérieur du pays. Ils sont allés enseigner ça dans les dictatures sud-américaines, hein, en Argentine notamment, où il fallait torturer, et puis il fallait aussi faire disparaître les opposants, pour pas qu'ils parlent justement du fait qu'ils ont été torturés. Voilà, tout ça le révoltait. En même temps, c'était un défenseur de la nature. Hein. Il est venu régulièrement au rassemblement des coquelicots, hein, pour lutter contre les pesticides. Et puis, en tant que météorologiste, il y a longtemps qu'il sait que le réchauffement climatique est dramatique et que nous abîmons notre terre. Voilà, tout ça, c'est Pierre. On va reprendre un interview qu'il nous avait donné dans cette émission quand il parlait de la sortie de son livre. C'était en 2015. Ensuite, il avait fait aussi une intervention à la médiathèque en 2019 sur le thème de l'esclavage, en liant l'esclavage ancien et puis l'esclavage qui existe toujours, notamment en Mauritanie, hein, puisqu'il était membre aussi de l'association IRA France Mauritanie qui lutte contre l'esclavage en Mauritanie, puisque c'est un pays qui est classé en dernier dans l'utilisation des esclaves. C'est ce pays qui utilise le plus, où il y a encore le plus d'esclaves du monde. On va l'écouter. On revient en 2015. C'était le 3 juin 2015. Il parle de son livre.
Bonjour Pierre. Donc tu as animé avec ton éditeur une soirée à la médiathèque de Digne-les-Bains pour justement présenter ton livre. La salle était pratiquement pleine et je me suis dit, tiens, ça serait bien que on répercute un peu ce sujet à nos auditeurs. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené à écrire ce livre sous forme d'un roman?
Voilà, je vais essayer d'être le plus simple possible. Ce qui va pas être facile dans un domaine vraiment pas facile et souvent ignoré, quoi. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est parti d'une constatation, en discutant, dans le vécu que j'ai eu en Guadeloupe, et en discutant au sein d'Amnesty International avec des professeurs de l'Université Antilles-Guyane, une constatation par laquelle, dans notre histoire moderne, par deux fois, on constate que des armées de la liberté ont été en fait utilisées après coup ou immédiatement à des fins de répression envers cette liberté et envers des hommes. Alors, constatant ça, je me suis ramené à l'esclavage et je me suis posé cette question, à savoir comment des hommes sincères qui ont fait le choix des armes pour défendre la liberté, pour la liberté, eh bien, se retrouvent-ils dans un tel pataquès, quoi. Alors, bon, on constate, je l'ai vu par mon vécu, que, bon, bah, la plupart s'en sortent très très mal, coulent le plus souvent, et puis il y en a quelques-uns qui s'en sortent par le haut, comme je dis, quoi, voilà. Alors, naturellement, c'est une histoire vraiment très difficile parce que, d'autant qu'elle n'est pas, enseignée ou très très peu enseignée et qui touche le passé et la mémoire. Alors ça touche notre passé commun, le passé de la France. Et puis on voit malheureusement que ce passé, il est sélectif. Il y a un passé qui est enseigné et un passé qui ne l'est pas ou qui est occulté. Bon, voilà, c'est une constatation. Maintenant, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, bien sûr. Hein. Mais enfin, comme nous ne sommes pas dans un pays autoritaire ni totalitaire, nous sommes dans une république, je pense que c'est bien que les gens connaissent la totalité du passé de leur pays et ensuite, ils en font ce qu'ils veulent, c'est évident. Bon. Et la mémoire, eh bien, c'est une mémoire commune. C'est une mémoire à la fois des gens qui sont sortis de l'esclavage et c'est notre histoire aussi. Et ce n'est pas pour rien que le président Chirac, en 2004, bon, auparavant, il y avait eu déjà une loi pour reconnaître, une loi en France pour reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité. C'est la loi du 21 mai 2001. Bon. Et ensuite, le président Chirac a voulu qu'on s'occupe de cette mémoire. Et en 2004, il a voulu que soit créé le comité pour la mémoire de l'esclavage. Et a demandé qu'un rapport soit rendu. Ce rapport a été rendu en 2005 au Premier ministre. Un rapport qui était surtout fait pour l'éducation. Hein. L'éducation, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Il y a eu quelques petites améliorations, mais vraiment pas grand-chose. Et si vous voulez, je vais vous en lire deux ou trois lignes. Vous allez voir, ça va vous mettre dans le bain tout de suite. Alors voilà ce que dit Monsieur le Premier ministre. Je passe. Ces propositions sont de nature à faire en sorte que la mémoire partagée de l'esclavage devienne partie intégrante de la mémoire nationale. De nos travaux, le constat suivant peut être établi. Il existe une forte attente au-delà de tous les clivages dans l'esprit de la loi du 21 mai 2001. Cette attente s'explique par le fait que la très grande majorité de nos concitoyens du monde issu de l'esclavage sont convaincus que malgré cette loi, l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition continue d'être largement ignorée, négligée, marginalisée. Ces concitoyens perçoivent cet état de fait comme un déni de leur propre existence et de leur intégration dans la République. En tant que citoyens, ils demandent que soit reconnu un passé qui a modelé non seulement leur société, mais aussi la France dans son ensemble. Et plus loin, leur histoire n'est pas prise en compte. L'esclavage reste une question mineure dans l'histoire et la mémoire nationale. Il ne s'agit pas de dramatiser, c'est vrai, mais c'est le devoir de tous ceux qui exercent une responsabilité d'être clairvoyants avec un discours sans ambiguïté et des actes forts qui manifestent la volonté de la République française d'aborder cette page honteuse de son histoire. Voilà, je pense que comme préambule, c'est pas mal, ça nous met tout de suite dans le bain, quoi.
Voilà, alors tu as parlé que par deux fois des armées de la liberté ont été contraintes par la suite à faire de la répression. Alors, pour nos auditeurs, il faudrait peut-être un peu préciser. Alors, la première fois, c'est sous Napoléon.
C'est sous Bonaparte.
Sous Bonaparte, au lendemain de la Révolution. Mmh. Donc, si je comprends bien, les gens se sont engagés dans l'armée pour la Révolution française, pour des notions de liberté, mmh. D'égalité entre les hommes. Hein. Il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été la suite de cette Révolution voilà. française. Et ensuite, qu'a fait Bonaparte alors ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, durant la Révolution française, la première abolition de l'esclavage, qui est très très peu connue, en 1794, n'a pas été facile. On remarque qu'il s'est quand même passé 4 à 5 ans avant qu'il y ait l'abolition. L'abolition n'a pas eu lieu en 1789 ni en 90. C'est parce qu'il y avait un énorme conflit, même durant la Révolution, entre les abolitionnistes, avec de très grands hommes, et puis ceux qui étaient les partisans des colons et des financiers, qui voulaient surtout pas qu'il y ait l'abolition de l'esclavage, ni de la traite négrière, bien sûr, c'est évident. Mais enfin, bon, là, on peut en reparler par la suite, mais c'était un conflit excessivement dur, et en 1794, eh bien, c'est Danton et l'abbé Grégoire qui ont réussi à faire passer le décret de l'abolition de l'esclavage. Malheureusement, Condorcet était déjà mal en point. Il croupissait dans un cachot, alors que Condorcet a fait pratiquement de sa vie. Il a fait de l'abolition de l'esclavage une lutte durant une grande partie de sa vie. Enfin voilà. Donc l'abolition de l'esclavage est acquise. Bonaparte, lui, au début. Il ne dit rien ou pas grand-chose, mais il admet. Il y a eu, en 1799, ce qu'on appelle la déclaration de Saint-Domingue, la proclamation de Saint-Domingue exactement, où Bonaparte dit bien, il écrit, que jamais il ne sera porté atteinte à la liberté des Noirs. C'est-à-dire des anciens esclaves ou des hommes qui ont été libérés auparavant, des hommes libres. Jamais. Voilà. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une telle pression des colons, une telle pression des financiers qui, il faut savoir quand même, ces gens-là, ils protégeaient leurs intérêts et dès le début, ils avaient pris le parti de la Révolution française, hein. Absolument, ils n'étaient absolument pas contre. Il est évident qu'ils savaient où étaient leurs intérêts. Hein. Donc, sous cette pression des colons et des financiers, Bonaparte, qui toujours en 1801 était encore très ouvert, puisqu'il pensait que l'armée de Toussaint Louverture, on pourra y revenir sur ce personnage à Saint-Domingue, futur Haïti, avait une armée excessivement puissante d'anciens esclaves qui avaient chassé les Anglais, les Espagnols, et il pensait Bonaparte se servir de cette armée au milieu du dispositif colonial français qui à cette époque allait de la Louisiane jusqu'à la Guyane, et il comptait s'en servir. Voilà. Mais sous la pression des financiers et des colons, il a fini par dire qu'il fallait rétablir l'esclavage. Et donc il y a eu une guerre qui a eu lieu avec deux expéditions entre la fin 1801, novembre 1801, donc la plus grosse vers Saint-Domingue, puisque Saint-Domingue c'est une île importante avec une forte population. Donc une première expédition avec 37 000 hommes, près de 40 000 hommes, c'est quand même l'effectif de l'expédition d'Égypte, hein, pour se donner une image. Hein. Et puis une seconde expédition en mai 1802, direction la Guadeloupe, avec une armée bien moindre de 3500 hommes, 3700. Mais il faut dire que la Guadeloupe est une petite île, hein, donc il n'y a pas une grosse population. Donc voilà, ces deux expéditions, une guerre pour établir l'esclavage, donc à travers deux expéditions. Donc l'expédition de Saint-Domingue a été terrible parce que il y a eu une répression horrible. On pourra en parler suivant les questions que l'on peut aborder. Et puis, l'expédition de Guadeloupe n'a pas été moins terrible, mais disons que elle a été quand même différente. Parce que, et il est vrai que les autorités en mai 1802, eh bien, ont accueilli l'armée de Bonaparte, commandée par le général Richepens, et ils l'ont accueilli les bras ouverts. Et ils ne se doutaient pas de ce qui allait se passer. Donc, dans un premier temps, eh bien, il y a eu une grosse partie de l'armée coloniale qui était constituée de Noirs et de Créoles qui a été désarmée. Ils se sont pratiquement laissés désarmer. Hein. Quelques-uns ont pris la fuite avec des officiers. Ils ont pu prendre la fuite. Tout ça est raconté dans le roman. Mais par contre, la deuxième partie de l'armée coloniale, sachant ce qui s'était passé, par contre, cette fois-ci à Basse-Terre, naturellement, là, ça s'est mal passé. Là, il y a eu véritablement des batailles effroyables, là. Hein, c'est ça. Alors, c'est vrai que dans ce roman, eh bien, le personnage central, il y a plusieurs personnages, mais le personnage central, il se retrouve dans cette guerre sans qu'il l'ait voulu. Tout simplement parce que c'est un jeune homme à l'époque, en 1792, qui part de son pays, de la Savoie. Alors, pourquoi de la Savoie? Parce que, bon, c'est un peu spécial, parce que la Savoie n'était pas française à cette époque-là. Mais en 1792, eh bien, on a dit cette année que c'était l'année des Savoisiens. Parce que, bon, ils ont pris fait et cause pour la Révolution française. Une grosse partie de la population, parce que, bah, ils avaient sur les reins les pieds montés, dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser. Et donc, ils ont pris fait et cause. Et beaucoup, eh bien, beaucoup, pour eux, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté, ça leur parlait quelque part. Donc, eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont partis. Ils sont partis, ils se sont engagés, hein, ils se sont engagés dans l'armée française. Et donc, ce jeune homme, eh bien, il part, il a une grande connaissance, parce que son père est éleveur, il a une connaissance des bêtes, des chevaux, et ainsi de suite et tout. Et puis, il part. Et on l'envoie de Chambéry, on l'envoie sur Paris. Et comme c'est un bon cavalier à cette époque-là, eh bien, il va être recruté dans un régiment de chasseurs à cheval, c'est-à-dire de hussards. Et il va se retrouver, comme on dit, il va se retrouver au bon moment et au bon endroit, comme on dit. Il va se retrouver avec un autre personnage dont beaucoup de Français ignorent, qui s'appelle le Chevalier de Saint-Georges, qui est un créole de Guadeloupe, mais qui était en France depuis très longtemps, un fameux musicien, le plus grand escrimeur d'Europe, un très grand cavalier, ainsi de suite, qui a pris fait et cause pour la Révolution immédiatement, et qui a voulu créer un corps constitué rien que de noirs et de créoles, de cavaliers. Voilà. Mais comme il n'avait pas assez d'effectifs, eh ben, il complétait les effectifs par des blancs, quoi. Et bon, donc lui s'est trouvé là-dedans à Paris, hein, voilà. Et le recruteur, dans l'histoire, le recruteur n'est autre que le colonel Dumas, c'est-à-dire le père d'Alexandre Dumas, qui était l'adjoint du chevalier de Saint-Georges, et qui n'était pas général encore à cette époque, mais qui était colonel. Donc il va se retrouver dans cette armée, il va se retrouver sur les batailles des Flandres, dans l'armée du Nord, face aux Autrichiens et aux Hollandais, voilà. Et puis, dans ce corps, il va arriver à une époque où ce corps n'a plus lieu d'être, puisque bon, les champs de bataille ont changé, quoi, et ainsi de suite. Et on envoie une partie de ce corps en Guadeloupe pour renforcer l'armée coloniale de Guadeloupe, donc, comme j'ai dit, qui était constituée de Noirs et de Créoles, qui eux ont débarrassé la Guadeloupe des Anglais en 1794 et aussi chassé les Anglais de certaines îles comme Sainte-Lucie. Sauf la Martinique, ils n'ont pas réussi. La Martinique est restée anglaise pendant une bonne partie de la Révolution jusqu'en 1802, le traité d'Amiens. D'accord ? Donc ce qui est particulier, c'est que la Martinique n'a jamais connu la première abolition de l'esclavage en 1794. Eux, ils sont restés esclaves. Oui. Jusqu'à l'abolition de l'esclavage de 1848 que l'on connaît en France, qu'on connaît bien, bon, celle-ci. Tandis qu'en Guadeloupe, eux, ils ont été libérés par la première. Voilà. Donc, lui, eh ben, son corps est dissous. Et comme on cherche des hommes qui ont une connaissance des Noirs, des Créoles, ainsi de suite, pour cette expédition qui va être envoyée en Guadeloupe, qui va partir de Brest, ben lui se retrouve là-dedans. Il se retrouve dans cette histoire. Et à vrai dire, eh ben, il ne sait plus trop où il en est, quoi. Il ne sait plus trop où il en est. Il va se retrouver dans cette tragédie. Et il va se retrouver dans une guerre, naturellement, qui n'est plus du tout la sienne. Parce que lui, il a pris les armes pour la liberté, pour les droits de l'homme. Et tout d'un coup, il se retrouve dans une répression. Voilà, toute l'histoire est là. Le centre de l'histoire est là.
Très bien. Alors Jean Darrot nous a lu quelques passages de ton livre. Il y a aussi une histoire d'amour. Mmh. Et puis il y a aussi, parce que je sais que tu es un grand amoureux de la nature, il y a aussi une description très poétique de la végétation de la Guadeloupe que tu connais bien. C'est un roman agréable à lire aux éditions Parole. Hein, vous pourrez le trouver dans les librairies, surtout de la région, hein, puisque c'est un éditeur local.
Voilà, donc Pierre Souhaité.
Oui, alors vous pouvez le lire, hein, son roman, Le prix de la liberté, donc aux éditions Parole, livre de Pierre Souhaité, à Digne, on le trouve très facilement. Voilà, maintenant on va écouter une chanson qui parle justement de cette traite des êtres humains. Ça s'appelle « Chant de marin sur l'esclavage ».
C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier quand je suis parti de la ville de Nantes. Je croyais chercher du bois de charpente, mais ce bateau pendait de la chair humaine. Dieu me pardonne, la route du bois d'ébène. Comme des bêtes, la nuit, le jour, sans pitié, on les fouette. Chaque jour, et les plus faibles qui passent tour à tour.
Voilà. Alors, Pierre était très attaché aux droits humains, hein, puisqu'il a combattu toute sa vie avec Amnesty International notamment. Et il dit dans son roman, il fait dire à son personnage, « Les droits de l'homme ne seront pas perdus, c'est une semence dans les sillons de la haine. Rien ne pourra les empêcher de pousser, ni même la raison d'État. La lutte sera longue, tu le sais, et il faudra des générations pour changer les esprits. » Voilà. Alors dans cette lutte pour les droits humains, il y a la lutte contre la peine de mort qui existe toujours. Et Amnesty, comme chaque année, vient de sortir son rapport sur l'état de la peine de mort dans le monde en 2020. Voilà. Alors au niveau mondial, au moins 483 personnes ont, à notre connaissance, été exécutées en 2020. Ce chiffre ne tient pas compte des exécutions en Chine. On pense qu'il y a ça se compte par milliers, les exécutions dans ce pays. Mais on n'a aucun chiffre, aucun moyen de les avoir. Voilà. Alors, il y a une baisse. On remarque une baisse de 26% par rapport à 2019 et de 70% par rapport au pic de 1634 exécutions en 2015. Les difficultés sans précédent engendrées par la crise du Covid-19 n'ont pas suffi à dissuader 18 pays de procéder à des exécutions en 2020. En effet, alors qu'un combat a été livré partout à travers le monde pour protéger la vie des personnes face à la pandémie, plusieurs gouvernements se sont, de façon inquiétante, acharnés à recourir à la peine de mort et à procéder à tout prix à des exécutions. La peine de mort est un châtiment abominable et la poursuite des exécutions en pleine période de pandémie ne fait que souligner davantage encore la cruauté qui lui est inhérente. Elle est déjà difficile, dans le meilleur des cas, de s'opposer à une exécution. Mais en raison de la pandémie, de nombreuses personnes, sous le coup d'une sentence capitale, n'ont pas pu avoir accès en personne à un avocat. Le nombre d'exécutions recensées en Arabie Saoudite a chuté de 85%, passant de 184 en 2019 à 27 en 2020, et de plus de 50% en Irak. Aucune exécution n'a été recensée en 2020 à Bahreïn, en Biélorussie, au Japon et au Pakistan, à Singapour et au Soudan, alors qu'en 2019, ces pays avaient appliqué les sentences capitales. En Chine, les informations donc sur le nombre total d'exécutions et de condamnations à mort sont classées secret d'État. Mais on pense que la Chine procède à plusieurs milliers d'exécutions, ce qui la classe en tête des pays qui ont le plus grand nombre d'exécutions devant l'Iran, l'Égypte, l'Irak et l'Arabie saoudite. En Égypte, le nombre d'exécutions enregistrées durant l'année a triplé, le pays se classant ainsi au troisième rang mondial en 2020. Donc il y a une baisse générale, en Chine on ne sait pas, mais en Égypte par contre, il y a une augmentation des exécutions. Les États-Unis ont été le seul pays des Amériques à avoir procédé à des exécutions en 2020. En juillet, le gouvernement de Donald Trump a procédé à la première exécution fédérale depuis 17 ans. Et 5 États ont à eux seuls exécuté 7 personnes. Même si certains gouvernements ont continué d'utiliser la peine de mort, le bilan pour 2020 est globalement positif. Le Tchad a aboli la peine capitale, de même que l'État du Colorado aux États-Unis. Le Kazakhstan, pour sa part, s'est engagé à abolir au titre du droit international. Et la Barbade a procédé à des réformes afin de supprimer l'imposition obligatoire de la peine de mort. Donc en avril 2021, 108 pays ont déjà aboli la peine de mort pour tous les crimes. Et 144 l'ont aboli en droit et dans la pratique. En outre, le 16 décembre 2020, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution relative à l'instauration d'un moratoire sur les exécutions dont l'objectif d'abolir totalement la peine de mort. 123 États se sont prononcés en faveur de cette proposition. Les États qui maintiennent la peine de mort doivent considérer ce résultat comme un signal d'alerte. Les exécutions cautionnées par l'État n'ont plus leur place dans le monde moderne. La Virginie est récemment devenue le premier État du Sud des États-Unis à avoir supprimé la peine de mort, et plusieurs projets de loi visant à l'abolir au niveau fédéral sont en instance devant le Congrès des États-Unis. L'année 2020 est une année particulière, puisqu'elle marque pour la France les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Parce que celle-ci est périodiquement remise en cause, nous nous mobiliserons tout au long de l'année pour alerter un large public et appeler à l'abolition universelle de la peine de mort. On va maintenant écouter une chanson qui avait été choisie par Pierre lors de son émission en 2015. Voilà, une chanson choisie par Pierre en 2015. Donc, le 22 avril dernier, Amnesty International a publié un article sur les États-Unis qui reprennent les ventes d'armes aux Émirats Arabes Unis. Donc, Joe Biden fait marche arrière et décide de mener à terme une vente d'armes aux Émirats pour un montant de 23 milliards de dollars. Contre toute attente, la poursuite de cette livraison d'armes risque d'aggraver le désastreux bilan humain au Yémen. Là-bas, des armes de fabrication américaine sont utilisées pour blesser et tuer des civils en toute illégalité. Cette décision n'est pas celle d'un président soucieux de faire respecter les droits humains aux États-Unis et à l'étranger. Les drones américains pourraient être responsables d'attaques des Émirats arabes unis qui violent le droit international humanitaire et tuent ou blessent des milliers de civils yéménites. Le gouvernement de Joe Biden doit résolument s'abstenir de fournir des armes qui pourraient être utilisées dans ce conflit et de transférer de l'armement aux Émirats arabes unis. Dans le cas contraire, ils seraient complices de probables crimes de guerre dans la région. Depuis le début des frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, en mars 2015, nous nous sommes rendus dans 8 gouvernorats sur des dizaines de sites touchés, afin d'enquêter. À plusieurs reprises, nous y avons trouvé des restes de munitions fabriquées aux États-Unis. Nous avons examiné des restes de bombes de fabrication américaine qui ont frappé des hôpitaux, des écoles et des logements de civils et tué des professionnels de la santé, des enseignants et des familles entières, dont des enfants âgés pour les plus jeunes de seulement 2 ans. En outre, la vente aux Émirats arabes unis est également préoccupante car nous détenons de nombreuses preuves montrant que ce pays a eu recours à des drones armés en Libye afin de contourner l'embargo des Nations unies sur les armes en place depuis de nombreuses années. Nous demandons aux États-Unis d'immédiatement cesser de transférer des armes, du matériel et de l'aide militaire à toutes les parties du conflit au Yémen et de faire respecter l'embargo des Nations unies sur les armes en interdisant le transfert d'armes et de matériel susceptibles d'être utilisés dans le conflit armé dans ce pays. Même combat en France, nous exigeons du gouvernement qu'il rende des comptes sur ses exportations d'armes et qu'il mette fin aux ventes d'armes en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Les parlementaires, garants incontournables du débat démocratique, doivent quant à eux pouvoir jouer leur rôle et exercer un meilleur contrôle de ces ventes d'armes. Voilà, on va maintenant écouter une chanson du groupe Terra sur c'est une chanson contre les armes.
C'est Croisade ?
Croisade.
OK.
Est revenu avec lui. L'incohérence, les abus, ils ont tué des civils, ont rasé des rues, des centaines de maisons transformées en talus. Ils ont fait la guerre en Afghanistan, tout comme au Vietnam, en plus enrichissant. Ils ont libéré l'Irak médiatiquement, camouflant leurs attaques en fausse libération.
Ils agissent sans conscience, dans l'indifférence. Ils punissent nos existences sans nous laisser la moindre chance. Trop sûr de leur puissance, ils utilisent la violence. Ils punissent nos existences et emprisonnent nos espérances.
Ils nous impressionnent à coups d'interdits. Ils remplissent les prisons, font des sans-abri. Ils nous conditionnent depuis tout petit que plus grand. Nous soyons asservis.
Ils agissent sans conscience, dans l'indifférence. Ils punissent nos existences sans nous laisser la moindre chance. Trop sûrs de leur puissance, ils utilisent la violence. Ils punissent nos existences et emprisonnent nos espérances.
You loved them, you natural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty.
Voilà. Je vous lis maintenant un extrait du livre de Pierre Souetté, Le prix de la liberté, et qui résume bien ce qu'était Pierre. Il fait dire à un de ses héros, « Reste éveillé. Tiens-toi sans cesse du côté de la vie. Sème l'amour pour que les autres puissent récolter ses fruits. Il est si facile de glisser du côté de la mort, quand les forces malfaisantes se mêlent aux hommes et les contraignent à la violence. Il faut savoir de quel côté on se trouve. Garde-toi de tous ceux qui, par le choix de la mort, affirment la liberté, c'est de ne plus avoir de conscience. Ainsi tu seras libre. Les pouvoirs n'auront plus prise sur toi. C'est ce qu'ils craignent le plus, de savoir qu'un être, même emprisonné, peut être libre, car cette liberté leur échappe. Elle est incompréhensible pour eux. C'est pour ça que le poète est sacré et maudit. Sacré pour l'humanité, maudit pour les pouvoirs. Tu comprends ce que je veux dire, j'en suis sûr. » Voilà. Alors, maintenant, sur l'actualité des droits humains. En France, la loi sécurité globale a définitivement été adoptée par le Parlement. Après un premier examen à l'Assemblée nationale, un second au Sénat, puis la réunion des deux assemblées, dans une commission mixte paritaire, la proposition de loi a été adoptée définitivement le 15 avril par le Parlement. Les élus viennent donc d'inscrire dans le droit un texte qui porte atteinte à plusieurs de nos libertés fondamentales. Pratique de surveillance généralisée menaçant notre droit à la vie privée et notre droit de manifester. Disposition floue permettant des poursuites injustifiées et abusives. Atteinte à la liberté d'informer. Mais avant la promulgation finale, le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur cette loi pour vérifier qu'elle est conforme à la Constitution française et aux droits fondamentaux qu'elle protège. Mardi 20 avril, 87 députés ont en effet déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester cette proposition de loi. Cette saisine représente l'ultime espoir de corriger des dispositions portant atteinte aux droits fondamentaux protégés par la Constitution. D'après Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France, au regard de sa jurisprudence, il est probable que le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions qui ne respectent pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution. On pense notamment à la vidéosurveillance par des caméras embarquées sur des drones, prévue dans l'article 22, qui ne permet pas que le public soit informé de façon claire et permanente qu'il est filmé. Or, le Conseil constitutionnel a considéré que cette information du public était une garantie à respecter pour la mise en place de la vidéosurveillance par des caméras fixes. Les risques d'atteinte au droit à la liberté d'informer que contient l'article 24, dont on a tant parlé, sont tout aussi préoccupants, même après sa réécriture par le Sénat. Le nouveau délit de provocation à l'identification des forces de l'ordre manque de clarté, alors que la clarté juridique est une exigence constitutionnelle que l'on retrouve dans le principe de l'égalité en droit international. L'identification est une notion beaucoup trop large qui n'est pas suffisamment explicitée dans la proposition de la loi. L'article 24 vise à sanctionner une intention, un élément subjectif, difficile à évaluer. Or, si cette intention est caractérisée, le délit est déjà sanctionné par le code pénal, menace, harcèlement, diffamation. Quand la France s'engage dans une politique qui remet en cause ses droits, elle s'engage dans une politique extrêmement nocive pour l'ensemble des droits humains. C'est ce qu'a déclaré Agnès Callamard, la nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International au niveau mondial. Voilà, on reste donc vigilant et on va écouter encore le groupe Terra dans sa chanson « Rage ».
Place en ce monde, à chacun le droit de vivre ses rêves. On voudrait voir un jour de plus un lever de soleil. Nous qui sommes les mêmes, malgré nos différences, préférant brûler nos ailes que renier nos sens. Tous ces actes qui mènent à autant de créations, comme autant de discours pour rompre le silence. Suis-nous dans la réalité, vers la lumière, vers la liberté. Écarte-toi de la médiocrité, tous ensemble pour la vérité. Suis-nous dans la réalité, vers la lumière, vers la liberté. Écarte-toi de la médiocrité, tous ensemble pour la vérité. Perdu et sans repère, retrouvons simplement le chemin de nos cœurs comme le font les enfants. Avançons fièrement sur des voies de traverse, sans aucun référent ou cliché qui rabaisse. Que nos âmes rebelles se comptent par millions, grâce à l'écho lointain de notre évolution. Affrontons la guerre, armée de la paix, enfant des lumières, souviens-toi et viens. Suis-nous dans la réalité, vers la lumière, vers la liberté. Écarte-toi de la médiocrité, tous ensemble pour la vérité. Suis-nous dans la réalité, vers la lumière, vers la liberté. Écarte-toi de la médiocrité, tous ensemble pour la vérité. On a la rage, celle qui pousse à tout changer. On a l'amour, celui qui pousse à espérer. On a l'humour, celui qui peut désamorcer. On a l'espoir et la passion, on ne va rien lâcher. De la sagesse, celle qui nous fait méditer. De la folie, qui nous surprend dans le danger. De l'ironie suffisamment pour relativiser. L'instinct de nos actions permet de triompher. On n'a qu'une vie mais peu d'espoir. On a nos vies, on a nos voix, on a un prix. Nous les vaut rien, on veut tout mais on n'a rien. On a des rires, des pleurs, des griffes, un cœur, le calme et la tristesse, l'envie et tout le reste. On a des droits, on a le temps, on se battra pour nos enfants. On a le nombre et du courage, le verbe et des adages. On a des pierres, des fleurs, des frères, des sœurs, des rêves et des idées. On veut tout partager, alors viens. Suis-nous dans la réalité, vers la lumière, vers la liberté. Écarte-toi de la médiocrité, tous ensemble pour la vérité. Suis-nous dans la réalité, vers la lumière, vers la liberté. Écarte-toi de la médiocrité, tous ensemble pour la vérité. Suis-nous dans la réalité, vers la lumière, vers la liberté. Écarte-toi de la médiocrité, tous ensemble pour la vérité. Suis-nous dans la réalité, vers la lumière, vers la liberté. Écarte-toi de la médiocrité, tous ensemble pour la vérité.
Belle chanson qui représente aussi bien ce qu'était Pierre Souhaité, notre ami. Je vais vous parler d'une bonne nouvelle. Donc après 500 jours passés en prison, Soulafa Magdi, journaliste égyptienne de 34 ans, a enfin été libérée. C'est avec une grande joie et un immense soulagement que nous avons appris cette nouvelle. Si Soulafa est enfin libre, c'est aussi grâce à vous. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées sans relâche pour sa libération. Cette bonne nouvelle nous montre qu'ensemble, nous pouvons avoir du poids et changer la vie des personnes que nous défendons. Aussi, je vous invite tous, les auditeurs, à aller régulièrement sur le site amnesty.fr pour intervenir pour ces personnes injustement emprisonnées ou torturées. Soulafa était en prison depuis novembre 2019. Attablée à la terrasse d'un café au Caire, elle a été arrêtée par la police avec son mari Oussam. Les autorités égyptiennes l'ont accusée de diffuser de fausses informations et d'appartenir à un groupe terroriste. En Égypte, quand vous êtes journaliste et que vous critiquez le pouvoir, vous risquez la prison. À plusieurs reprises, nous avons dénoncé son arrestation arbitraire. Lorsque le président égyptien Sissi a été reçu en grande pompe par la France en décembre dernier, nous en avons mis en lumière les cas de nombreuses personnes emprisonnées injustement en Égypte, comme Soulafa. Mais la France n'entend pas revoir son partenariat stratégique et économique avec l'Égypte, malgré la situation désastreuse des droits humains dans ce pays. En février dernier, nos chercheurs et nos chercheuses sur le terrain ont appris que son état de santé se dégradait. Les informations que nous avons reçues nous ont beaucoup inquiétés. En prison, Soulafa vivait un véritable calvaire. Elle était de plus en plus faible. Au vu de la gravité de la situation, nous avons lancé un appel à la mobilisation par le biais de nos actions urgentes. Il fallait un moyen d'action rapide. Alors vous pouvez tous participer à ces actions urgentes. Il suffit de s'inscrire auprès d'Amnesty International et vous recevez deux fois par mois à peu près une action urgente pour une personne quelque part dans le monde. et qui a besoin d'un soutien massif. Et il faut envoyer des lettres, en général, aux autorités, avec copie aux ambassades. Et c'est un moyen efficace, puisque c'est des milliers de lettres qui partent de tout le monde entier pour une situation donnée. Et bien sûr, il y a toujours un caractère d'urgence, parce que la personne risque d'être exécutée, ou la personne est torturée, ou la personne a disparu. Donc il faut absolument faire la lumière sur ce qui se passe. Donc vous pouvez, vous aussi, participer à ce moyen d'action qu'on appelle les actions urgentes. Vous allez sur le site d'Amnesty.fr et vous verrez comment s'inscrire. On n'a pas besoin d'être membre d'Amnesty pour faire des actions urgentes. Ou vous contactez aussi le groupe de Digne par l'intermédiaire de Fréquence Mistral, si vous voulez. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle grâce à tous les mails qu'on a envoyés, hein, puisque c'est plus de 6000 envois qui ont été envoyés pour cette personne, ainsi qu'à l'ambassadeur égyptien en France. Et grâce à cette mobilisation, on a pu faire libérer cette journaliste. Voilà. Avant d'écouter une dernière chanson, je vous signale que nous avons annulé la foire aux livres d'Amnesty Digne qui devait se dérouler le 21-22 mai. Voilà, donc la mairie nous a dit que c'était mieux de ne pas la faire, de la reporter à l'automne, on espère. Et peut-être que le festival de cinéma pourra se dérouler un petit peu si les cinémas ouvrent. Il en est peut-être question autour du 17 mai. Dans ce cas, on essaierait de passer un film sur une personne exceptionnelle, un peu comme l'était Pierre souhaité. Ça se passe en Colombie, c'est l'histoire d'un docteur, Hector Abad Gomez, qui lutte pour sortir les habitants de Medellín de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d'être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Ce film s'appelle « L'oubli que nous serons » de Fernando Trueba. Il se peut qu'on ait le réalisateur en présence. Il a été sélectionné pour les Oscars en 2021. Voilà, c'est un très très beau film et on espère pouvoir le passer. Mais vous serez informés par la presse. Avant la dernière chanson, je vous lis un extrait tiré toujours du livre de Pierre Souhaité, Le prix de la liberté, qui montre aussi son amour pour la nature, la montagne d'abord, puisqu'il a vécu en Savoie, et puis cette Guadeloupe qu'il aimait tant. Donc c'est son héros, Victor, qui est adossé au tronc d'un gommier blanc. Il se releva pour rejoindre le proche campement. Tournant le dos à la mer, il resta en arrêt devant la lisière de la forêt. Était-ce la lumière qui le faisait voir cette forêt avec de nouveaux yeux? Une joie profonde l'envahit. Cette lumière venait de l'intérieur, une lumière sacrée. À nouveau, cette forêt lui paraissait d'une puissance inconnue, d'une vitalité extraordinaire, d'une diversité époustouflante. Les teintes, les dégradés de vert, les formes, les géométries infinies n'étaient que très difficilement assimilables. Une forêt si dense, si verte, inconcevable pour un Européen habitué aux forêts de ces terres. Une forêt comme un rideau de théâtre, derrière lequel se prépare un grand spectacle, celui d'une vie inouïe. Une forêt fermée par des dés de lianes immenses, s'écoulant des cimes vers une terre invisible. Et devant, comme un décor posé là sur l'avant-scène, de grands tulipiers du Gabon couverts de grosses fleurs serrées, comme autant de points d'un rouge vermillon. Voilà un extrait de ces passages très poétiques où il nous parle de la nature et de la vie, de l'amour. Voilà. On finit avec une chanson encore de Terra qui s'appelle « Différence ».
S'il n'existe qu'une race, mais de multiples sociétés pour ralentir la révolte des peuples du monde entier. La différence, celle qui éloigne, celle qui trop souvent excuse un racisme inexplicable. Des centaines de coutumes sont la richesse culturelle que nous en faisons.
Certains condamnés, la différence, celle qui rapproche, permettra d'accéder à cette unité.